C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Notre invité ce matin en studio, le premier ministre du Québec, François Legault. Monsieur Legault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Beaucoup de choses. On va commencer par le cours sur la citoyenneté et la culture qui a été présenté hier. Les gens sont pas contre les principes, là, qu'on ait des citoyens québécois avec des notions de respect, puis d'ouverture, puis d'équité, de diversité, c'est très bien. Mais trois questions. La première, beaucoup de gens lèvent la main en disant, est-ce que c'est un cours pour en faire des Québécois caquistes avec une formation d'un certain, une certaine vision du nationalisme? Autrement dit, est-ce que le politique se mêle de l'éducation?
Non. Ce qu'on veut surtout, c'est, parce que vous vous rappelez, j'ai même joué dans le film comme ministre d'Éducation. Pendant longtemps, on avait des cours de religion à l'école, catholique, protestant. Et à un moment donné, on a fait une espèce de cours de l'histoire des religions. Puis après, il y a eu ce cours-là, ECR, où là, on mettait toutes les religions sur le même pied. Et c'était pas souhaité par beaucoup de Québécois. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va beaucoup parler de démocratie, puis le mot d'ordre qui est envoyé aux experts qui vont écrire le cours, c'est de trouver une manière de rassembler tout le monde. Donc, de pas être partisan, là, de dire l'égalité entre les hommes et les femmes, on se rejoint là-dessus, le français, on se rejoint. La laïcité de l'État, sans parler des projets de loi, je pense qu'on est capable de se rejoindre là-dessus. Le racisme, qu'est-ce qu'on fait avec les médias sociaux qui sont de plus en plus violents? Donc, il y a vraiment là des notions de citoyens qui vont être acceptées puis acceptables par tous les partis politiques.
Il y en a plusieurs qui disent que c'est un espèce de fourre-tout qui a été créé, c'est-à-dire on va parler d'éducation sexuelle, on va parler de la culture. Des profs qui me disent « Ouais, mais la culture, on l'a déjà dans d'autres cours. L'histoire est aussi enseignée dans, par d'autres professeurs. » Est-ce que ça devient pas un peu mêlant tout ça? C'est un, on prend tout ce qui fait notre affaire puis on le met là. Là.
Bien, ce qu'on veut, dans le fond, c'est de dire l'école, c'est un bon endroit pour que nos jeunes deviennent des bons citoyens. Donc, qu'ils comprennent qu'on peut pas harceler sexuellement une femme. Je pense qu'on le voyait hier avec Ingrid Falaise qui expliquait on a des principes à donner à nos jeunes. Qu'est-ce qui arrive avec les médias sociaux? Qu'est-ce qui arrive avec nos valeurs de base? C'est quoi notre histoire? C'est quoi nos artistes là qui ont marqué le Québec? Pour que je pense que si on veut savoir où on veut aller, c'est important de savoir d'où on vient. Donc, c'est ça un peu l'histoire du cours.
Dans cette perspective-là, Québec solidaire vous demande de faire une loi sur la violence sexuelle dans les écoles et avec un paquet de modalités parce que ça se passe beaucoup aussi au niveau scolaire. Êtes-vous d'accord avec une loi sur la violence sexuelle, pour contrer la violence sexuelle?
Ouais, on est très ouvert. Là. Déjà, il y a des mesures, puis on va mettre un protecteur de l'élève en place. Déjà, dans chaque école, il doit avoir une ressource dédiée à ça. Donc, il y a effectivement du travail qui se fait, puis j'ai hâte de lire le projet de loi là que propose Québec solidaire. Puis s'il y a des mesures qu'on peut appliquer puis qui ont du bon sens d'être appliquées, moi, je suis ouvert à ça.
Regardons l'état des ressources gouvernementales. Vous cherchez du monde partout, là. En gros, là, en santé, en éducation, on a des profs qui n'ont pas tout à fait les compétences, mais n'ont pas le choix de les mettre là. Vous donnez des primes aux infirmières, on ne sait pas si c'est la machine ou les syndicats qui comprennent ça tout croche. Vous êtes dans une opération chambre pour amener du personnel, puis là, je pourrais inclure les CPE, les éducatrices. Comment vous allez faire pour les convaincre? Le matin, des gens qui vous écoutent, là, pourquoi j'irais travailler dans un hôpital où je regarde le journal de Montréal et on me dit que c'est mal planifié, que les gestionnaires font des problèmes d'administration, manque de personnel, c'est désuet, pas bien ben attirant.
Bon, d'abord, c'est un problème qui était là avant la pandémie.
Oui.
Hein, on le voyait, les taux de chômage étaient très bas, mais ça s'est accéléré. C'est pour ça que c'est une raison importante pourquoi j'ai décidé de faire un discours d'ouverture, donc de reprendre nos priorités, parce que, bon, quand on touche aux sciences humaines au sens large, là, l'éducation, les éducatrices, les psychologues, les travailleurs sociaux, les infirmières, on ne peut pas remplacer ça par des robots. Et puis la pandémie a fait peur à certains. Et faut bonifier les salaires C'est la première fois, vous savez, M. Arcan, là, vous avez été dans l'entreprise privée. Dans l'entreprise privée, on ne donne pas les mêmes augmentations de salaire à tous les employés de l'État. Nous, pour la première fois, on a augmenté de 15-20% les salaires de certains...
Mais est-ce que ça va être suffisant?
Ben, là, l'autre chose qu'on essaye de faire...
C'est bien beau la paye, là, mais si l'hôpital est vétus, si on est... Vous voyez, bloc opératoire, 50 % de moins en termes d'infirmières. Vous avez beau me payer plus cher, c'est pas bien bien tentant non plus.
Oui. Bien, c'est là aussi qu'on dit qu'il y a une nouvelle manière de gérer les ressources humaines. Parce que, pour toutes sortes de bonnes puis de mauvaises raisons, là, à travers les années, puis je parle de 10, 15 ans, on a développé une gestion beaucoup du temps supplémentaire obligatoire. C'est-à-dire que il nous manquait d'infirmières, mais on se disait, à cause du code d'éthique, les infirmières, on peut les obliger à faire deux quarts de travail de suite, ce qui est inhumain. Et on n'a pas mis assez d'emphase sur la qualité des horaires de travail des infirmières. Mais évidemment, le fait que pendant la pandémie, on a perdu des infirmières, ça veut dire qu'il restait moins d'infirmières pour faire le travail. Donc, c'était plus dur pour ces infirmières-là. L'autre chose, 40 % des infirmières dans notre réseau sont à temps partiel. Imaginez-vous, là, moi, je dis souvent mon exemple, quand j'étais président de l'Air Transat, si j'avais eu mes pilotes ou mes agents de bord, où 40 % étaient à temps partiel puis pouvaient travailler.
Mais on les comprend pourquoi elles ont choisi le temps partiel. Elles vont faire autant d'argent en 2-3 jours qu'avec un horaire complet. Puis au moins, c'est prévisible. Elles savent que jeudi, je travaille pas, mais je vais être chez nous, là, je serai pas prêt à l'hôpital. Mais pour être plus précis, le 15 novembre, êtes-vous convaincu que vous n'aurez pas besoin d'appliquer le décret?
Bien, écoutez, on l'espère d'être capable d'appliquer le décret. On va sûrement être capable de l'appliquer à certains endroits. Christian Dubé, par exemple, disait, dans les urgences, là, c'est sûr qu'il faut l'appliquer. Parce que il y a un contact très proche avec les patients. Donc, il y a des régions aussi, on va être capable de l'appliquer. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est de l'appliquer partout. Mais même s'il y a 3 % seulement des infirmières qui ont refusé d'être vaccinés, ben c'est un 3 % qu'on a besoin parce qu'il nous en manque déjà 4 000. Là, on est rendu qu'on a recruté déjà plus de 2 000.
Mais donc, ça veut dire que ça pourrait être repoussé au 15 décembre pour la suite puis le 15 janvier pour la suite.
Ben écoutez, comme je vous dis, on va sûrement l'appliquer à certains endroits. On aimerait l'appliquer partout.
Les médecins de famille.
Oui.
Les Québécois attendent et attendent pour avoir accès à un médecin de famille. Là, il y a même un collègue de l'Assemblée, M. Zanetti, là, qui a publié pour sa mère en fin de semaine un message sur les réseaux sociaux. Gaëtan Barrette trouve que vous avez la bonne approche. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça?
Ben, on en avait beaucoup parlé quand Gaëtan était avec la CAQ. C'est un problème qui existe depuis longtemps. C'est qu'il y a des médecins de famille qui jouent la game, comme on peut dire, puis qui prennent en charge leurs 1000 patients. Puis il y en a d'autres qui font du bureau sans rendez-vous 3-4 jours par semaine puis qui travaillent pas le soir puis la fin de semaine. Résultat des courses, 50 % des patients qui sont dans nos urgences ont pas d'affaires là, auraient dû être traités dans une clinique. Donc,
mais ça fait 25 ans qu'on se dit ça au Québec.
Effectivement. Puis je peux vous dire, moi, dans ma vie, là, autant dans le privé que dans le public, j'ai négocié avec des syndicats, la CSN, la FTQ, mais le syndicat qui est le plus puissant, il s'appelle la FMOQ, la Fédération des Omnipraticiens. Et surtout à Montréal, là, c'est très difficile des obligés à prendre en charge un certain nombre de patients.
Mais je vais me faire l'écho de ce qu'ils disent. Il y en a qui m'écrivent, oui, là, puis ils me racontent. Ils disent que vous êtes débranchés de la réalité. Que un, ils font bien de la paperasse parce qu'ils n'ont pas le choix. Que deux, il y en a qui ont des tâches d'enseignement. Que trois, il y en a qui ont des tâches à l'hôpital. C'est pas la même réalité qu'en Ontario. C'est pas parce qu'ils veulent pas voir de patients, c'est qu'ils font déjà des semaines très longues de 60 heures facilement. C'est une mauvaise lecture, disent-ils, que vous avez.
Bon, d'abord, il y a des médecins de famille qui n'ont pas accepté d'être en GMF, en groupe de médecine de famille, où là, il y a des ressources pour faire la partie paperasse. Ensuite, ben là, il faut aussi être capable de travailler le soir, la fin de semaine. Il y a des gens qui sont malades durant le soir puis la fin de semaine. Donc, faut être prudent. Évidemment, faut tenir compte de ceux qui
travaillent. Mais c'est un enjeu de la prochaine élection, là.
Ben, c'est un enjeu qui est important pour les prochains mois, puis probablement les prochaines années, on n'arrivera pas à solutionner tout le problème.
Mais est-ce que le message que vous leur envoyez, c'est de dire, vous en prenez plus, ou ben donc, je coupe votre rémunération, c'est ça?
Ben, rappelez-vous, c'est pour ça que Gaétan Barrette appuie notre démarche. Gaétan Barrette avait adopté un projet de loi qui s'appelait le projet de loi 20. Il a donné 2 ans aux médecins de famille pour prendre en charge un certain nombre de patients. Puis les médecins de famille n'ont pas livré. Donc là, techniquement, on pourrait utiliser le projet de loi de Gaétan Barrette pour couper de 30 % la rémunération de certains médecins de famille. Bon, est-ce que c'est ça la meilleure approche? Moi, j'aimerais avoir une entente avec eux autres, mais
vous ne les présentez pas comme quelqu'un de... C'est pas un syndicat facile, vous dites.
C'est pas un syndicat facile.
Mais vous êtes prête à prendre la manière forte, si j'ai bien compris, s'il n'y a pas d'entente.
Je pense qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a souvent des médecins de famille qui prennent en charge beaucoup de patients qui me disent « c'est pas juste ». Mes collègues là en prennent pas en charge, puis c'est moi qui subis les conséquences de ça. Je suis obligé d'aller travailler plus souvent à l'urgence, comme l'œuf puis la poule. C'est parce qu'il y a pas une première ligne forte. Il y a des médecins de famille qui sont obligés d'aller travailler à l'urgence, à l'hôpital, pour prendre des patients qu'on appelle P4, P5, des petits problèmes qui auraient dû être gérés avant.
Projet de loi sur la réforme du droit de la famille. Les transgenres disent qu'avec ce qu'il y a sur la table, là, ça prend une preuve médicale d'un changement pour pouvoir modifier le sexe de la personne. Donc, ça veut dire une opération, il faut qu'il y ait une preuve médicale qu'il y a un changement physique des organes génitaux. Ils disent que c'est de la discrimination, que vous ne devriez pas mettre ça dans votre projet de loi.
Bon, écoutez, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Ce que j'ai compris de Simon-Jolin Barrette, c'est que dans les documents civils, on peut changer le genre. Mais pour changer le sexe, ben il y aurait comme une opération chirurgicale qui est nécessaire parce que bon, faut qu'il y ait comme une preuve.
Mais si la personne vous le dit.
Mais ben c'est ça. Puis est-ce qu'on peut changer souvent de sexe? Moi, je suis ouvert là, à regarder. L'objectif du projet de loi, c'est de donner plus de droits aux transgenres et que ça soit plus possible de l'inscrire. Maintenant, le genre, le sexe. Il y a différentes étapes à franchir, puis on est ouvert aux discussions.
Est-ce qu'on va avoir d'autres assouplissements avant Noël? Les Québécois, ils vous écoutent ce matin, là, puis ils pensent à leur party. Il y a des employeurs qui disent « Ouais, mais t'as peu les restaurants, là, c'est une table de 10, 3 bulles. » Allez-vous mettre un peu de lousse sur la table pour le temps des fêtes ou s'il faut attendre à janvier pour la vaccination chez les enfants?
Ben moi, j'espère. Bien honnêtement, je veux faire attention parce que l'année passée, j'ai été obligé de reculer. Mais j'espère, pour le temps des fêtes, d'être capable d'annoncer des assouplissements. Évidemment, depuis 20 mois, on écoute les recommandations de la santé publique, donc du docteur Arruda. Donc, on va continuer de les écouter. Je comprends dans
les gens
manifestent
pour aller danser. Vous avez vu ça en fin de semaine?
Oui, j'ai vu ça pour aller danser. Là, ça me manque, moi aussi, si vous ne pouvez pas savoir comment. Non, c'est des farces. Mais peut-être mon épouse. Mais je comprends les jeunes là de se dire, quand on va dans un bar, ben oui, on lâche notre fou pis on aimerait ça être capable de danser. Je les comprends. Puis je sens, quand je parle au docteur Arruda, qu'il y a des changements qui s'en viennent, mais bon.
Il y a une ouverture.
Il y a une ouverture.
OK. Est-ce que vous êtes, je regarde le retour en septembre et tout ça, étiez-vous plus fatigué, plus à fleur de peau? Quand, tu sais, des fois, tu dis, il se pogne avec Gabriel Nadeau-Dubois, il traite de woke, là, il dit, c'est Maurice Duplessis qui est en face de moi, puis là, ça, vous n'aimiez pas ça. Étiez-vous plus fragile?
Ben, j'ai toujours été quelqu'un, comment je dirais ça, d'émotif. Hein? Je prends ça à cœur, je suis passionné. Quand Gabriel Nadeau-Dubois me traitait de Duplessis, ben j'ai répondu, j'aime mieux Duplessis qui est un woke, qui défend pas les... Parce qu'à l'époque, il y avait le débat sur les compétences du Québec face à Justin Trudeau. Puis lui, il avait dit, ben les compétences, ça m'intéresse pas. Puis je lui avais dit, ben voyons donc, Duplessis a défendu les compétences du Québec. Je ne veux pas dire que Duplessis était parfait, mais ça m'arrive de me choquer, comme tous les êtres humains, mais ce n'est pas parce que je suis fatigué.
Mais là, vous avez perdu vos élections fédérales. Vous aviez dit aux Québécois, votez pas pour Justin Trudeau. Là, il est là. Comment ça se passe avec lui?
Ben, j'ai eu une conversation avec lui, puis ce que je sens, c'est que j'ai l'appui des Québécois. Quand on demande aux Québécois, d'abord, êtes-vous d'accord que le projet de loi 21 pour interdire les signes religieux, une grande majorité est avec moi, donc contre Justin Trudeau, qui n'aime pas cette loi-là. Quand je demande plus de pouvoir en immigration, j'ai les Québécois avec moi. Quand je dis le Québec doit avoir plus de pouvoir...
Mais vous prononcez pour, pendant une élection, de revendiquer des pouvoirs, c'est une chose, mais dire « votez pas pour un parti comme celui de Trudeau », puis là, il est au pouvoir, ça doit faire des relations un peu plus froides.
Ben, ça fait des relations un petit peu plus froides, mais en même temps, moi, c'est pas vrai que je vais juste pour lui faire plaisir ne pas défendre les intérêts du Québec. Moi, je suis quelqu'un de nationaliste. Quand quelqu'un dit on va ajouter des fonctionnaires à Ottawa pour venir vous dire comment gérer les CHSLD, là, ben ça me choque, puis je dis attention, ce gars-là, il est dangereux, c'est un centralisateur, alors que nous, ce qu'on veut, c'est un Québec qui a plus d'autonomie, parce qu'on est une nation. Donc, évidemment, c'est interprété comme étant « Ah, oh, j'appuie d'autres partis. » Bon, évidemment, si je parle d'Erin O'Toole et les conservateurs...
Vous n'avez pas voté libéral fédéral, ça, c'est sûr.
Non, mais regardez, ça dépend des sujets. Sur l'environnement, je suis peut-être plus proche de Justin Trudeau que d'Erin O'Toole. Mais pour moi, la priorité des priorités, c'est de défendre les pouvoirs de la nation québécoise. C'est ça ma priorité.
Avez-vous une opinion sur l'élection à Montréal?
Non, je n'ai pas d'opinion sur l'élection à Montréal.
OK. Techniquement, vous pourriez déclencher l'élection au printemps prochain. Je dis bien techniquement. Est-ce que vous avez l'intention d'attendre à l'automne ou si vous gardez, comme on dit, toutes les cartes entre les mains?
Non. On a choisi au Québec d'avoir une loi puis des élections à date fixe. Ça va être le 3 octobre 2022 pour
pas
tout avant. Ça. Non.
C'est vrai, vous voulez un deuxième puis un troisième mandat?
Ben, écoutez,
ça, c'est comme Duplessis.
Écoutez, il y a du monde qui me le demande. Évidemment, c'est une question de santé, mais c'est surtout la décision des Québécois. Si les Québécois me supportent m'appuient pendant 1, 2, 3 mandats, ben, ça va être aux Québécois de décider. Moi, de mon côté, actuellement, je me sens en forme. Je sais qu'il y a beaucoup de changements encore à faire au Québec. Et puis, je suis prêt à rester, mais c'est aux Québécois là, de décider.
Monsieur Legault, merci d'être venu ce matin.
Merci, M. Arcan.
Premier ministre du Québec, François Legault.
L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
Éric Thibault, Félix Séguin sont avec nous ce matin pour parler du livre Le Parloir, Manigance et Déchéance. Évidemment, parle de Maurice Mombouchet. Bonjour à tous les deux d'abord.
Bonjour, Paul.
Bonjour, Paul.
Maurice Boucher, c'est un personnage en soi, là, au-delà de ses activités criminelles puis ce qu'il a représenté chez les Hells Angels. Mais il y a deux ou trois éléments, après avoir lu le livre ce matin, qui, disons, font peut-être sursauter un peu. D'abord, quand on passe au travers les interrogatoires, quand on regarde l'échange qu'il y a eu avec sa fille, tout ça, le fait qu'il ait été expulsé des Hells Angels, cette espèce de colère, de hargne, de goût de vengeance, c'est le cas de le dire, là, qui l'habite encore tout en sachant qu'il demeure en prison.
Moi, c'est ce qui m'a fasciné, au même titre que ça t'a fasciné quand on a vu l'enregistrement des conversations qu'il avait avec sa fille dans le parloir de la prison. C'est que Maurice Boucher, au fond, t'as raison, il y a deux cycles de criminalité. Il y a son premier cycle quand c'est l'artisan de la guerre des motards, puis c'est décrit comme un ennemi public, puis un psychopathe, puis en veux-tu, en voilà. Puis t'as son deuxième cycle, alors qu'il est à l'unité spéciale de détention de Sainte-Anne-des-Plaines, où on pense qu'il est menotté au sens propre, comme au sens figuré, opérationnellement parlant. Mais non, il garde justement cette hargne-là. Et il... Moi, je disais quelqu'un qui est dans un supermax, parce que Sainte-Anne-des-Plaines, c'est un supermax, dans le fond, là, et qui est toujours en train de manigancer pour tuer, parce que c'est ça qui a fait... en amenant sa fille dans un complot de meurtre, enceinte, moi, j'ai été renversé de voir ça.
Mais, Éric, pourquoi il veut tuer tant de gens? Pourquoi il veut se venger? As-tu l'impression qu'on arrive à comprendre? Tu sais, bon, il est en dedans, il est comme une bête blessée, il pense que ses amis l'ont trahi, les avocats l'ont pas aidé, même si... Pourquoi il est comme omnubilé par ça?
Ben, comme tu l'as dit, là, il est blessé, il est comme une bête blessée, puis... Il rêve de vengeance, mais dans les faits, là, on le sait là, que c'est une lubie. Là. Il sortira pas. Là. Puis il a 68 ans, il est malade. Il dit lui-même que ça va prendre un miracle là, pour sortir du pénitencier un jour. Mais moi, c'est la psychologie qui m'intéresse. Là. C'est de rentrer un peu dans la tête de ce gars-là qui a mené une espèce d'existence... un peu secrète là, dans l'œil du public. Là. C'était une vedette du crime, mais le commun des mortels, personne ne le connaît. Là. Sauf
qu'est-ce que tu as découvert sur la psychologie?
Ben, en fait, c'est justement le fait que ce gars-là, il prend personnel. Pour lui, là, c'est le petit gars qui se faisait battre à l'école. C'est qui faisait rire de lui, qui se faisait ridiculiser, qui est tombé dans la toxicomanie, qui est tombé dans la petite criminalité, qui se cherchait une gang pour être accepté, puis un peu comme Gérald Galland, qui avait le contrat de le tuer pendant la guerre des gangs, puis un peu comme le délateur qui l'a fait condamner, Stéphane Godasse-Gagné. C'est des gars qui ont enfance malheureuse, qui se sont ramassés, qui se sont trouvés une gang dans le crime pour être accepté, pour être valorisé. Puis là, sa gang en 2014 lui a donné son bleu et l'a évincé parce que il est plus utile. Puis en plus, les membres actuels, eux autres, ils se souviennent encore du temps qu'ils ont passé à prison de Bordeaux à cause de l'opération Shark pour les crimes dont il était accusé durant la guerre des motards. Donc, Boucher, lui, là, il dit « J'ai tout fait pour eux autres. Je suis allé au BAP pour eux autres. J'ai payé, j'ai donné tout mon argent aux avocats pour pas juste me défendre moi, mais défendre nous autres. » Puis là, il dit « c'est moi le pas bon. » C'est un peu ça que je trouve intéressant puis qui s'en plaigne autant. Là.
Bon, tu l'as effleuré tantôt, Félix, l'idée d'impliquer sa fille enceinte dans un complot. Là. C'est quand même pas banal. Puis bon, on a le transcript là, de l'échange entre Boucher et sa fille, mais tu te dis « mais pourquoi il va embarquer sa fille? » Parce que est capable de relayer le message pour éventuellement faire assassiner Rénal Desjardins?
Ouais, exactement. Sur les faits, Maurice Boucher s'est proposé, puis tu le vois dans le parloir, parce qu'il y a aussi des vidéos qui existent de ça, là, s'est proposé lors d'une rencontre avec sa fille Alexandra Mongeau pour faire tuer Rénal Desjardins, qui lui attendait un transfert de sa prison au Nouveau-Brunswick vers la prison de Sainte-Anne-des-Plaines, le pénitencier où Maurice Boucher est. Donc, qu'est-ce qu'il avait besoin, Maurice Boucher, c'est d'une porte vers l'extérieur pour pouvoir passer des messages. Puis il dit à sa fille, à un moment donné, il dit « parle à », et là, il se touche la joue, hein, pour référer à la couleur de la peau de Grégory Woolley, à qui il voulait parler. Parle-lui et dis-lui que je suis capable de... Et là, il fait un signe de poignarder. Donc, c'est ça. Ça, c'est le complot. Mais, t'as raison, Paul, c'est assez particulier la fenêtre qu'on ouvre pour aller
sur la relation,
ce complot-là, c'est ça.
Entre Boucher et sa fille, là.
Ben, oui, c'est ça, parce que, en fait... Puis là, tu découvres que Maurice Boucher lui dit à sa fille... Puis tu le rappelles, là, Paul est enceinte, là, mm-hmm. avant de coucher. Là, puis il lui dit, garde, t'as pas le choix, faut que tu fasses ça pour moi. Et c'est aussi ça, s'ajoute à ça, je suis sûr que tu l'as vu, des séances d'aliénation parentale aussi, où il parle
de son ex,
de la mère. Puis tu sais, maman m'a fait bien du mal, tout ça. Puis il met sa fille au centre de ce complot-là. Puis tu vois même à un moment donné qu'elle hésite. À passer certains messages parce que elle est confrontée à une autorité parentale qu'elle n'a jamais reniée et au fait qu'elle sache très bien qu'elle fonce tout droit là, vers un complot criminel qui pourrait lui valoir une accusation dont elle a été déclarée.
Mais les policiers lui disent, c'est-à-dire dans l'interrogatoire, tu t'en vas dans le mur, t'es enceinte, tu vas te retrouver en prison, puis... Le message est clair, mais c'est quoi? C'est la loyauté à son père?
Oui, on dirait que c'est ça. Puis c'est, tu sais, en même temps, moi, je suis assez porté à penser que les criminels dans leur vie font des compartiments, tu sais. Ça, c'est ma vie familiale. On le voit, là, tu sais, dans les affaires mafieuses, entre autres, là, ma famille, mes affaires, ma vie personnelle avec ma femme, mes enfants, puis ma vie criminelle d'un autre côté. Maurice Boucher, c'est dans le même sac, là, tu sais, il est criminel jusqu'au bout. Puis, je te raconterai même une anecdote. Moi, je suis allé cet été à Kosciuszko, où il est né, là, à mi-chemin entre Matapédia puis la Gaspésie, pour interviewer ses oncles, ses tantes, une conseillère municipale qui est sa cousine. Et encore, l'aura, si tu veux, de Maurice Boucher, la vedette, pas Maurice Boucher le psychopathe, mais Maurice Boucher la vedette, plane encore à Kosciuszko. Puis, sa tante, elle me disait, écoute, moi, à mon sens, Maurice, il n'a rien fait de mal. Hey, attention!
Il n'a rien fait de mal.
Ben oui, attention. Moi, tu vois, là, ça aussi, il y a une part de fascination chez moi là-dedans. Il n'a rien fait de mal. Je veux dire, il a tenté de déstabiliser l'État de droit. dans lequel on vit, en tuant deux gardiens de prison, Diane Lavigne, Pierre Rondeau, puis en voulant faire assassiner des juges, des procureurs de la couronne, des policiers. Et ça se transpose pas, ça, cette psychopathie-là, dans... chez les membres de sa famille. C'est un peu spécial, tu vois, c'est un peu flyé. Là.
La question, elle se pose, à chaque fois qu'il y a un livre qui porte sur une figure dominante du crime, bon, est-ce qu'on est en train d'en faire un héros? Est-ce que ça devient une référence? Pourquoi parler de lui? Il est en prison, on n'entend pas parler, tout si bien qu'il meurt dans l'anonymat ou dans la discrétion le plus possible. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Maurice Boucher a coûté des millions de dollars, plusieurs, là, j'ai pas le décompte, mais en enquête policière, en coût de détention, il coûte encore cher. Et à l'unité spéciale de détention, là, il doit coûter minimum 200 000 par année. Mais c'est surtout parce que c'est un des rares criminels dans l'histoire du Québec qui s'est attaqué de front à nos institutions. Parce que les institutions, les autorités étaient après lui. Et lui, depuis qu'il est condamné, là, depuis qu'il a été trouvé coupable là, en 2002, là, on n'a pas entendu beaucoup parler de lui. Et l'intérêt, là, c'est de montrer que voici, on a eu besoin de deux procès pour le faire condamner. Ça a été long, ça a pris comme 5 ans. Aujourd'hui, il y a une justice qui a été rendue. Puis la justice... On vous la montre, on vous la révèle, on vous montre c'est quoi la vie de l'ancien criminel numéro 1 au Québec dans le pénitencier où il y a les pires criminels les plus dangereux au Canada. On vous révèle qu'est-ce que lui il dit là, il parle au jeu là, puis qu'est-ce qui se passe dans sa tête, c'est quoi ses frustrations, c'est quoi ses idées de vengeance envers son ancienne gang, etc. C'est quoi sa vie dans une minuscule cellule où tout le mobilier est bolleté, vissé dans le mur, où un moment donné, sa fille, il dit, ah, mais tabarnouche, papa, on dit, tu couches quasiment la tête dans le bol de toilette, hein, de manière que tu m'expliques comment ça est fait ta cellule. Ça, tous les efforts que les autorités ont mis pour mettre ce gars-là en dedans, parce que ce gars-là, il n'a pas juste commandé des attentats, les meurtres de gardiens de prison. Il a fait mettre des bombes dans des véhicules de police. Il a fait mettre des bombes devant des postes de police de quartier ici à Montréal. Il a fait faire des enquêtes sur des fonctionnaires du fisc qui s'intéressaient à lui. La police pense que c'est lui qui a commandé la tentative de meurtre contre notre
Michel collègue, Auger.
Michel Auger.
Mais Eric, tu dis ça, puis Paul, s'il n'y a pas de Maurice Boucher, là, il n'y a pas d'escouade Carcajou, parce qu'il n'y a probablement pas de guerre des motards. Puis s'il n'y a pas de guerre des motards, il n'y a pas de loi votée à Ottawa anti-gangstérisme. Donc, tu sais, la réponse à ta question, simplement, tu sais, il y a une importance malheureuse et triste dans notre histoire, mais qui ne doit pas être occultée.
On a déjà vu des criminels avoir un certain rayonnement auprès du... Gauthier à New York était populaire parce qu'il était généreux puis organisait des fêtes. Escobar également. Moi, je l'ai vécu, cette période-là, là, puis je me souviens très bien de son arrivée. J'étais au Gala de boxe au Centre Bell, au Forum, là, quand il y a eu... Puis pas juste les motards qui l'ont applaudi, là, qui étaient ringside. Il est rentré comme une pop star dans la place, puis il s'est fait applaudir. Puis je me souviens de toute la campagne. Il avait placé du monde pour désinformer, puis des anciens policiers.
Il était Rivet,
Savard. Tu sais, tout ce monde. C'était un contexte là, pas trop habituel au Québec de voir quelqu'un qui décide d'affronter le système. Puis là, j'inclus les médias aussi dans le système.
Ben, moi, je me risque à une explication là-dessus, Paul. Puis je pense que ça a été partagé par des policiers qui l'ont suivi beaucoup, comme Guy Ouellette, comme Roberto Bergeron aussi et d'autres. Maurice Boucher, à ce moment-là, bon, ben, était d'abord dans les médias parce que on le couvrait à chaque jour ou presque parce qu'il y avait une guerre des motards. Et c'était une des premières formes exclues, disons, le clan Dubois, là, il y a très longtemps, le clan d'Adrien Dubois et toute cette gang. Exclu de clan Dubois, c'était une des premières expressions, si tu veux, d'une criminalité un peu plus canadienne, française, québécoise. T'sais, c'était un peu plus accessible qu'un Vito Rizzuto ou qu'un Paolo Randa. Puis c'était, les codes de leur criminalité étaient beaucoup plus connus par nous. Puis souvent, c'était des gens qui venaient de quartiers aussi prolétaires, au contraire du mafieux qui monte en grade, auquel, puis dans Schlaga Maisonneuve, je pense même que Guy Ouellet le racontait dans son livre, dans Schlaga Maisonneuve, il y avait une certaine frange de la population, puis c'était là où se tenait Maurice Boucher, au coin des rues Pinot-Sainte-Catherine, une certaine frange de la population qui disait, hey, Maurice, un bon gars, là, un gars du coin, tu sais. Fait que, tu sais, il y a peut-être une, tu sais, je me risque quand je te dis ça, mais il y a peut-être une association aussi qu'on faisait à cette époque-là, une fausse, là, mais qui était celle-là.
Mais en même temps, c'est le gars qui dérangeait aussi. Puis quand il dérangeait, je pense, les autres motards. C'est pas tout le monde qui trouvait ça intéressant qu'on se ramasse avec un carcajou puis qu'on se ramasse avec, des
il
opérations.
Pas d'accord. Il n'y a pas de Maurice. Je te dis, il n'y a pas de, si Maurice Boucher n'est pas là, il n'y a pas de guerre des motards parce que c'est Maurice Boucher qui entraîne. Puis on a parlé, moi puis Eric, à des motards qui sont encore là aujourd'hui. Tu sais, puis je veux dire, ils disent, là, on voulait pas cette guerre-là. Puis il nous a amenés dans le fossé avec tout ça, là.
Vous le disiez tantôt, il a vieilli, évidemment, puis il est malade. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il va raconter sa version. Et des fois, il y a des gens qui sentent le besoin ou si lui, là, il est juste en train de se dire comment je peux passer des commandes de meurtre puis comment je peux, dans sa tête, là, dans cette espèce de folie-là. Éric?
Non, jamais.
Il parlera jamais.
Jamais. D'ailleurs, il a dit à sa fille qu'à un moment donné, il y a une conversation puis il est question, là, justement, que faut pas parler, puis faut pas parler à la police. Puis elle a dit, non, moi, je suis pas de même, je parle pas à la police. Mmh. Puis là, Boucher, il dit, ben si t'as pu hériter ça de moi, là, tu vas être bonne, tu vas être correct.
Puis un des motards qui nous a déjà dit, Éric, hein, rappelle-toi, puis c'est important, ça, on se l'est fait dire, on était les deux quand ça nous a été dit par quelqu'un dont on a protégé l'identité, mais il dit, on le respecte rien que pour une raison, c'est parce que c'est pas un rat.
Il s'en vante d'ailleurs que lui-ci a eu une offre pour devenir délateur, mm-hmm. mais c'est délateur, puis lui, là, ça fait deux. Là. Il
et en plus, qu'est-ce qu'on peut lui donner en échange? Je veux dire, à un moment donné, là, tu peux pas négocier une sentence réduite, lui faire un chèque.
Ben, tu sais, je veux dire, il est déjà là à vie, là. Déjà là à vie, il va mourir, là. Tu sais, il va faire. Qu'est-ce que. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'une offre. Puis, tu sais, je pense pas que l'offre que Maurice Boucher a reçue, là, de devenir un témoin du ministère public, ça soit récent. Qu'est-ce que Maurice Boucher peut raconter maintenant?
Maintenant.
Rien.
Non.
Ou presque.
Non, mais c'est en fait, c'est. C'est dans le titre. Il y a le mot manigance, puis il y a le mot déchéance. Puis les manigances, c'est les complots. C'est le complot qu'il a fait pour essayer de faire tuer Rénal Desjardins. Parce que lui, il a dit, moi, là, mes anciens amis, là, supposés anciens amis, là, sont à poubelle. Ça me dérange pas. La déchéance, c'est la vie qu'il mène
sa fin de vie.
Maintenant.
Ouais.
Et c'est, il est tombé là, de son piédestal. Et je pense qu'il y a de l'intérêt, là, effectivement, pour ça. Là. C'est pour ça.
Éric Thibault, Félix, merci d'être venu ce matin. Merci. Le parloir, manigance et déchéance, l'histoire de Maurice Baume-Boucher.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Marie Laberge est avec nous pour nous présenter son livre Contre-coup, qui est tout chaud. Marie Laberge, bonjour.
Bonjour, Paul.
J'ai comme l'impression, en lisant le bouquin, que vous dites, je regarde autour de moi là, ce qui se passe, bon, les féminicides, des gens qui ont cette haine des femmes aussi, qui se manifestent sur les réseaux sociaux et autrement. Des gens qui sont de plus en plus radicalisés. Puis vous dites, allons voir autour d'eux qui sont les gens qui subissent les contre-coups de ce qu'ils vivent. C'était un peu ça, votre démarche?
C'est tellement ça. Je suis tellement contente de vous entendre. Ça fait du bien. Vous avez tout compris. C'est vrai qu'on donne beaucoup d'importance des fois à ceux qui perpètrent les crimes. Mais pour moi, c'est beaucoup plus important d'aller voir tout alentour d'eux. Et puis, ça fait des vagues longtemps. Là. Il y en a des cercles. C'est pas juste, mettons, le père de la petite. C'est les amants, c'est les amis. Puis c'est pareil aussi pour même ceux qui sont les prédateurs ou ben les mauvais acteurs ou les malfaisants. Ils ont des familles, ces gens-là.
vous faites dire des choses à vos personnages. Je comprends que c'est des personnages, des gens qui rentrent dans une boutique, une personne qui rentre puis qui tue. Donc, ils ont des propos, c'est haineux, là. Vous n'êtes pas, il n'y a pas eu de retenue, là, dans l'expression de cette haine viscérale des gens.
Pas de censure, non, c'est vrai. Parce que je pouvais pas imaginer qu'on s'arme et qu'on rentre dans une boutique et qu'on fasse... Si on fait une fusillade, c'est sûr qu'on est activé par une rage intérieure, une espèce de dépassement de la violence. Que les mots, c'est déjà quelque chose. C'est déjà une violence terrible. Puis avec une arme en plus, je pouvais pas me mettre à me demander si c'était possible ou pas. Je l'ai suivi. Et c'est vrai que pour moi... Il y a comme une espèce d'obsession de contrôle des autres là-dedans. Il y a une obsession de vous allez faire comme je veux, c'est moi qui décide. Et cette espèce d'obsession-là, de pouvoir, c'est souvent inscrit à l'intérieur de gens très impuissants, très petits.
Est-ce que... Comment, en fait, vous expliquez cette haine qui... Peut-être on la voit plus, on l'entend plus, qui a toujours été là, je sais pas trop quoi répondre à ça, mais... Elle est présente, en tout cas.
Oui.
Puis c'est comme si on était comme dédouané de le dire. Moi, je vois des gens écrire...
La permission.
Ouais, tu sais, qui sont sur des réseaux sociaux, ils sont pas cachés derrière un avatar. Ils sont avec leur véritable identité puis qui tiennent des propos d'une violence hallucinante.
Oui, c'est très haineux. Je pense qu'il y a une escalade. Ça, c'est sûr que à partir du moment où quelqu'un peut dire tel mot, on peut le dire et puis on y va, puis on renchérit et puis c'est aussi une course d'ego, c'est une course de moi bien pire. Hein, quand on était petit, oh non, moi bien pire, il est arrivé ça. Mais cette escalade-là, il faut la freiner par un raisonnement ou par une espèce de réflexion qui est pas là présentement. Et s'il y en avait une sur les réseaux sociaux, les gens la liraient pas.
Ouais.
Ils veulent avoir la violence, ils veulent des émotions fortes. Mais pour moi, ça aussi, c'est dangereux.
Je reviens au livre. Donc, on a ce tueur, il entre dans une boutique, tue. Puis vous vous promenez autour. Qu'est-ce que vous découvrez, là? Qu'est-ce qui alimente votre réflexion sur comment des gens... Autant victimes, les proches, autant le tueur, les proches. Comment vous alimentez votre réflexion, puis après ça, votre écriture là-dessus?
Vous voulez dire si je fais de la recherche?
Oui, ou comment vous pensez à ça? Ça peut être des contacts.
Je m'installe dans eux, je reste dans eux.
C'est ça un peu ma question.
Et puis pour moi...
Vous l'avez fait avec le deuil, vous l'avez fait aussi avec...
Je l'ai fait assez souvent, en fait. Je me rends compte que je... Oui, c'est vrai que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on traverse une épreuve, un drame ou quelque chose qui, normalement, déchire un être humain. Puis le sépare en deux, littéralement. Il y a un avant puis un après. Mais en même temps, il y a une force dans les êtres humains. Il y a de la capacité de retrouver le fil de la vie. Il y a une capacité aussi d'intégrer ce qu'on perd et de ne pas le perdre en totalité. C'est-à-dire, quand on perd un être cher, c'est sûr qu'il n'est pas là. Mais si on l'a aimé, si on a créé des liens avec, on peut le garder en soi et se construire à partir de ce lien-là et continuer d'évoluer. C'est dur de perdre du monde. C'est affreux. J'attendais dans la petite salle la Pierre et puis je pensais à lui puis je me disais, il nous a tellement nourris aussi de sa vérité, de son authenticité, que ça nous reste. Puis on se fait comme à un moment donné, il y a un devoir de vie vis-à-vis ceux qui sont morts. Pas juste un devoir de s'effondrer ou un devoir de rester dans les larmes. Il y a cette vie-là. Ça m'intéresse. Comment leur sort reprend? Par quoi on passe? Puis il y a ceux qui sont pas capables. Fait qu'il y en a qui sont capables, plus ou moins, beaucoup. Et dans ce qui m'occupe, dans ce livre-là, je trouve que beaucoup sont capables.
Ben, ce qui me frappe, c'est ça. C'est-à-dire que pour avoir interviewé beaucoup de gens qui ont perdu un proche, parfois, exemple, après un acte violent,
oui.
Ça peut être un meurtre, ou terrible accident, puis des gens qui ont vu la vie leur être enlevée d'un être proche, puis tu te dis, là, puis avant, ces gens-là disaient, si quelqu'un me fait ça, je vais me venger.
Je vais tuer, oui.
Je vais tuer.
Oui.
Puis quand ça arrive, c'est pas ça.
Non.
Pour la plupart des gens.
Non, parce qu'on perd quelqu'un qui était dans la vie, qui était vivant et noblement vivant. C'est pas parce que quelque chose d'atroce et puis d'obscène est arrivé qu'on doit le devenir. C'est ça, un être humain qui se tient debout. Je dis pas qu'on chancelle pas, je dis pas qu'on vacille pas, je dis pas qu'on prend pas un gin de trop. Ça, c'est sûr. Mais à un moment donné, on a les deux pieds sur le sol.
Parce qu'on sent pas la vengeance dans votre livre.
Jamais. Non, il y a des rages, il y a des colères, il y a des non, je veux pas, puis il y a des moments où c'est sûr qu'il y a des fronts qui se pètent contre un mur, vraiment tel quel. Mais en même temps, c'est aussi, quand on dit j'ai perdu mon amour, il y a mon amour dedans. Je l'ai perdu violemment, mais c'est pas quelque chose... Alors je pense, moi je crois aux êtres humains, je crois à la force de la vie, je crois à la force du rapport. Si on était capable d'aimer à ce point-là, on est capable de rester debout, pour eux, continuer, vivre, même pas dans l'ombre de la personne qui est plus là. Ça doit être ça, faire le deuil. Je sais pas, pour moi... La vie est pleine d'échecs, de retraites, de coups durs, de pertes. Mais en même temps, de rencontres, d'amour, d'élan, de curiosité, de désir, de toutes ces affaires-là qui sont si belles.
Puis vous en rencontrez du monde qui, j'imagine, partage avec vous ce qu'ils ont vécu.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Parce que vous attirez ça pas mal.
Je pense qu'ils ont confiance que je vais comprendre.
Mmh.
Et je pense que c'est ce que j'essaie le plus de faire. Comprendre. Être là, puis recevoir.
Donnez-moi des exemples de ce que les gens vous disent.
Beaucoup de gens, c'est drôle ce qui vient de me venir, c'est beaucoup de gens m'ont fait des aveux du désir sexuel aussi, puis de la vie, parce que dans mes livres, il y a beaucoup de désir. Et je pense que les gens se sentent tout à coup autorisés à me parler de ce qui les habite. Je pense que j'ai eu il y a eu aussi à propos de l'inceste, j'ai fait des pièces de théâtre sur l'inceste et tout, et j'ai eu beaucoup de confidence là-dessus. Je me souviens d'une très, très jeune fille qui est venue me dire « Comment vous savez que je ne suis pas dégueulasse? »
Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Oh, je dis parce que je sais que ce qui t'est arrivé l'est, mais ça t'a pas atteinte. T'es pas devenue dégueulasse parce que quelqu'un de dégueulasse t'a touché. C'est pas vrai. Cette personne-là l'est encore plus profondément, mais pas toi, parce que t'es capable de me le dire. Et il faut que tu... Va-t'en, la petite coquille de dégueulasserie, enlève-la, il y a toi en dessous. C'est toi, t'es vivante. C'est ça que j'ai dit.
C'est une réponse.
En tout cas, c'était la mienne sur le coup. Elle était tellement belle, avec ses petites tresses, je m'en souviens encore, mais c'était un enfant, là. C'était quelqu'un de tout petit.
Mais ce qui est aussi très frappant dans le livre, c'est que, dans le fond, ce que vous dites au lecteur, s'il y a quelque chose d'horrible qui vous arrive, ou de moins horrible, mettez pas le projecteur sur l'auteur de votre malheur ou si quelqu'un est responsable de ce qui... Pensez à la personne qui est peut-être disparue et pour qui vous aviez cette relation particulière.
Oui, restez dans la vie. Allez pas dans ce qui est délétère, ce qui va vous tuer. Parce que la haine, ça tue.
Vous êtes comme un oasis, savez-vous, en 2021. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on vient de traverser collectivement, puis quand on sent les gens à fleur de peau, puis facilement irritables, puis qui perdent patience, puis tout ça, puis vous nous arrivez avec un livre où il y a des choses horribles, on s'entend, là, mais en même temps, message, faites confiance à la vie, puis regardez ce qu'il y a de positif.
Faites-vous confiance.
À vous-même.
Oui. On est vulnérable, on est fragile, mais on est fort aussi.
Le prochain livre, ça va être sur quoi?
Hey boy, je
vous pose tout le temps la question, mais c'est ça qui m'intéresse, entre autres choses.
Je sais pas, j'ai toutes sortes de projets. J'ai même une tentation théâtrale.
C'est vrai.
Je viens de dire ça, là. Je l'ai dit, mon Dieu.
Marie Laberge, merci beaucoup d'être venue.
C'est 23.